Bonjour Fab.
Salut.
Tu fais partie du groupe Death Decline.
Oui, tout à fait.
Et nous sommes ensemble pour parler de votre dernière production qui porte le nom de The Thousand Faces of Lies. On va commencer par la pochette, parce que c'est, on va dire, la première chose que les gens voient. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler autant votre pochette et après tout l'artwork à l'intérieur du Digipack?
En fait, si tu veux, on a fait appel donc à Stan Necker, qui est un infographiste qui commence à avoir un très beau CV en la matière. Donc on avait déjà travaillé avec lui pour notre précédent album Build Fortune. Donc on s'est dit qu'on allait retravailler avec lui parce qu'on est tout à fait satisfait de son travail. Là, donc on a voulu garder l'esprit de la première pochette, la forme, donc le fond et la forme. On est arrivé à cette pochette sombre, donc qui colle à l'atmosphère générale de l'album, avec ce personnage qui représente un peu le titre de l'album et c'est tout ce côté donc au niveau des mille visages du mensonge.
Au niveau du groupe, alors le groupe existe depuis une dizaine d'années, sur les tout débuts, ça a beaucoup évolué depuis. Là, donc, vous avez votre nouvelle production qui est sortie il y a quelques mois. Est-ce que maintenant, vous pouvez dire que pour cet album, The Thousand Faces of Lies, c'est l'image de Death Decline j'allais pas, enfin pas ad vitam aeternam parce qu'un groupe ça évolue tout le temps, mais que c'est quelque chose qui est bien ancré maintenant, que les gens soient rassurés, façon de parler, s'ils accrochent sur cet album là, forcément ça va le faire pour après.
Ouais, tout à fait, je pense que oui, comme tu le dis, on évolue constamment, du moins on espère. Du coup on a quand même cette recette qu'on a déjà appliquée sur le présent album Build Fortune, qui nous avait permis de bien nous établir de l'identité du groupe. Et donc, je pense qu'on a encore enfoncé le clou avec cet album, tout en essayant de continuer à évoluer, de développer le son du groupe, les différentes facettes du groupe. Alors, j'espère qu'on y est arrivé. Et donc, ouais, The Thousand Faces of Lies représente bien en 2018 ce qu'est le Decline.
Le côté plus technique, plus agressif, extrêmement percutant, c'est quelque chose vers quoi vous tendiez naturellement? Ou est-ce qu'il y a eu un travail particulier au niveau du groupe pour arriver à un tel résultat?
Alors oui, donc c'est vrai que dans le côté technique, comme tu l'évoques, ça s'est pas fait tout seul. Il a fallu effectivement qu'on travaille encore. Et donc c'est quelque chose qui est venu assez naturellement. En fait, on cherche en tant que musicien à toujours évoluer, à faire progresser notre musique, à faire progresser notre son. Donc c'est une façon inconsciente, je pense, mais volontaire.
Pour rentrer un petit peu plus dans l'album, sur The Thousand Faces of Lies, on se retrouve avec 9 morceaux. Est-ce que tout ce que vous avez sur l'album, c'est tout ce que vous avez composé, ou est-ce que vous en avez écarté quelques-uns parce qu'à la fin vous trouviez que c'était pas assez homogène sur la production?
Non, en fait, c'est vraiment tout ce qu'on avait composé donc entre depuis le premier album qui n'avait pas encore été enregistré. On préfère se concentrer sur des idées dont on est satisfait dès le départ, que composer beaucoup de morceaux dont des morceaux dont on n'est pas satisfait.
Donc sur ces 11 titres, vous avez on va dire une vision je peux pas dire pessimiste de la situation, mais dans quel état d'esprit en fait vous vous êtes mis pour écrire cet album là?
Dans l'état d'esprit que ce qui nous entoure, le monde en général, la société, tout ce qui nous entoure en fait n'encourage pas à être particulièrement optimiste. Donc c'est juste un reflet du monde qui nous entoure, et ça me paraît très difficile dans notre cas de développer quelque chose de fun à l'heure actuelle.
Une photographie de la société, on pourrait le présenter comme ça en fait.
Oui, tout à fait, une photographie de la société, un constat, un triste constat qu'on s'évertue à détester, à rejeter, mais qui est là quoi. Donc c'est une façon aussi d'interpeller tout ça, c'est quelque chose de pessimiste comme tu le disais. On espère pouvoir apporter notre petite pierre à améliorer la chose.
Est-ce que, du coup, tu irais jusqu'à dire que ça pourrait être un concept album?
Oui et non. Oui et non, parce que que la trame de l'album est assez homogène, mais les thèmes abordés sur chaque chanson ne sont pas forcément raccords, sont pas forcément les mêmes non plus. Donc ça peut être la religion, ça peut être la cupidité humaine, ça peut être l'écologie, ça peut être plein de choses comme ça. Donc la trame est à peu près la même, mais les sujets sont relativement différents sur chaque chanson.
Donc on va dire plutôt un album avec un thème principal, enfin un thème sur justement, comme on disait au début de l'interview, sur la société et toutes ses dérives, mais pas une histoire comme on peut avoir sur certains concept albums avec un personnage qui voyage ou des choses comme ça.
Oui, voilà, c'est ça, quelque chose de suivi, quelque chose d'homogène, qui développe plusieurs sujets, qui ne se contente pas de suivre un seul personnage et tout ça. Après, on a effectivement pour le petit côté justement rappelé, une trame comme on l'a, c'est par exemple le personnage sur la pochette qui était déjà présent sur la pochette du premier album 1014, donc qui nous fait rappeler que c'est des decline et qu'on n'a pas totalement changé.
Pour rentrer un petit peu plus, on va dire, dans la musique, l'enregistrement, ça s'est passé comment?
Bien et difficile à la fois. Difficile parce que on a eu certains des membres du groupe ont eu des problèmes de santé assez graves, certains aléas de la vie. Donc ça n'a pas été facile, ça n'a pas été de tourpeau. On l'a enregistré quand même en novembre 2017, donc il y a presque un an par rapport à sa sortie. Donc on a essayé de le travailler bien, on a essayé tout ça, mais pour avoir une vraie sortie en bonne et due forme qui permette à l'album de sortir du lot. Mais l'enregistrement lui-même n'a pas été des plus faciles. Bon, je pense qu'on est arrivé à la fin à un bon album, mais ça n'a pas été de tourpeau.
Vous avez enregistré au Vamakara Studio. Comment est-ce que vous avez fait le choix de ce studio d'enregistrement?
On cherchait donc pour cet album un son un peu différent de Build for Sin. Et du coup, notre choix s'est porté sur plusieurs studios. Connaissant un petit peu HK du Vamakara Studio, on est parti sur cette idée qui nous a paru très bonne et dont on est quand même plutôt satisfait.
Pour tes parties, qui sont les parties de guitare, est-ce que tu as une anecdote particulière justement sur ta session d'enregistrement?
Comme j'ai évoqué tout à l'heure, les problèmes de santé donc que moi j'ai eu en particulier, donc qui ont fait que c'était pas de tout repos et que c'était un peu éprouvant, mais ça restera une expérience. Mais une anecdote en particulier, j'aurais du mal à t'en donner une.
Vous avez enregistré de façon traditionnelle, c'est-à-dire ampli branché et micro sur la baffle, ou vous avez fait ça en DI avec du réamping ou d'autres techniques?
Alors en fait, on a utilisé un peu les deux. C'est-à-dire qu'on a à la base enregistré à l'ampli, mais on a tout réampé par la suite pour les guitares.
C'est pour avoir un son encore plus travaillé, encore plus massif?
Oui, c'est ça. C'était pour tout d'abord garder le côté naturel du son de guitare, mais avoir quelque chose de plus travaillé, de plus, tout en gardant un peu cette dynamique de son live.
Pour rentrer dans chaque chanson, alors on va pas faire la liste des 9 chansons, mais je vais te proposer une sorte de portrait chinois, mais un peu détourné. C'est-à-dire que si je te demande si la chanson Useless Sacrifice était une plante, ce serait quoi comme genre de plante?
Une ortie. Oui, parce que les orties, ça pique.
Pour le morceau Networks Zombie Supremacy, si c'était un bâtiment, ça ressemblerait à quoi?
Un putain de building.
Et si Beneath the Smile of the Rotten Idols était une boisson, ce serait quoi?
J'hésite entre un mojito et une tête paf.
Ah ouais. À chaque fois, des trucs quand même qu'on impose, j'ai envie de dire, ou en tout cas qui laissent des traces. C'est vraiment l'état d'esprit que vous avez en fait avec la sortie de cet album-là, que ce soit une vraie étape aussi bien dans la vie du groupe que dans la vie, on va dire, du métal français et international.
Oui, de toute façon, à chaque album, je pense que c'est le but, c'est de toujours progresser, toujours franchir les étapes, franchir les paliers et amener le groupe le plus loin possible où il pourra aller.
Vous avez sorti déjà plusieurs clips vidéo. Il y a donc Useless Sacrifice en vidéo officielle. Il y a aussi Bury the Beast qui est en lyrics vidéo. Et puis vous avez fait un teaser pour la sortie de l'album. C'est un exercice facile ou au contraire c'est très compliqué de sortir une vidéo qui ne soit pas un extrait de concert?
C'est jamais facile, il faut des compétences qu'on a que peu ou qu'on n'avait pas du tout jusqu'il y a peu. Donc Useless Sacrifice, on a fait appel à Crazy Shot, donc qui est à la réalisation, qui nous a donc pondu ce clip. Pour Bury the Beast et les teasers et toutes les autres vidéos qu'on a pu faire, c'est Alexis, notre chanteur, qui les a réalisées jusque-là.
D'accord. Et la jeune femme que l'on voit dans le clip Useless Sacrifice, est-ce que c'est la même qui sert de modèle justement au personnage qu'on retrouve sur la pochette ou ça n'a rien à voir?
Non, ça, je t'avoue que je pourrais même pas répondre à cette question, étant donné que c'est Stan donc, qui a réalisé la pochette de Bill Forsyth et de Soundtrack Seas of Light, qui ça fait partie de ses secrets. Je t'avoue qu'on ne sait même pas exactement qui est cette personne.
D'accord, ok. Le but, c'est pas d'avoir une personnification particulièrement en fait justement du personnage. Alors il y a d'autres groupes qui l'ont fait. Enfin, chacun a son icône. Je vais parler de groupes comme Iron Maiden ou Megadeth qui ont des personnages qui sont intégrés après dans leur pochette régulièrement. Vous avez donc ce personnage pour l'instant qui se retrouve sur les deux premiers albums. Vous n'avez pas envie d'avoir une personnification, par exemple, du personnage après pour l'intégrer sur toutes les vidéos ou sur des sessions live?
En fait, si, on est quand même quelque peu dans cette démarche d'avoir un personnage récurrent qui annonce une continuité dans nos albums. Pour l'instant, c'est notre façon de faire. Donc, le visage est pas, il ne semble pas exactement le même de la personne, mais le personnage reste le même. Donc, quand tu fais allusion à Eddie pour Iron Maiden ou Ratelette pour Megadeth, ouais. Je pense qu'on est un peu dans la même idée, un peu dans le même projet de cette unité, ce rappel des albums du groupe, de l'identité du groupe. Alors après, je ne sais pas combien de temps on utilisera cette recette, mais pour l'instant, on est un peu dans cette idée.
D'accord. Donc des femmes avec des cornes et le corps complètement décharné avec le cœur encore palpitant, oui. On va pouvoir en avoir encore et encore.
Oui, je pense que pour la suite proche, on restera dans cette approche. Donc surtout que en dehors du personnage en lui-même, comme tu l'évoques, le fait de que ce personnage ait toujours ce cœur en pomme, toujours ses entrailles, colle très bien avec le sujet de nos albums, avec le sujet abordé des chansons et la trame générale qu'on tente d'exploiter.
Vous avez des concerts qui sont en train de s'annoncer. Alors, il y en a déjà eu un à la fin du mois d'octobre. Et puis là, vous reprenez la route pour quelques dates au mois de décembre. Ça va s'organiser comment? Vous nous proposerez le dernier album, des mélanges justement avec Built for Sin. Comment ce sera au niveau de la setlist?
Alors oui, comme tu dis, on va tenter de faire la part belle à ce nouvel album. Tout en n'oubliant pas Bill Forsyth, qui est notre premier album. Donc, on va tenter de faire une setlist béton qui donnera aux gens l'identité du groupe depuis quelques années.
Bon, au niveau des dates, j'avais le 1er décembre à Lons-le-Saunier, le 14 décembre à Saint-Dié-des-Vosges, le 15 décembre à Strasbourg, le 19 janvier 2019 à Chalon-sur-Saône et le 16 février à Reims. Vous avez d'autres dates qui se sont rajoutées?
On est en pleine phase de booking. Donc d'autres dates sont pour parler, d'autres dates sont pas encore confirmées, mais ça ne saurait tarder. De toute façon, le but avoué, c'est de faire de la scène, c'est de tourner un maximum en France, à l'étranger. Donc on va pas ménager nos efforts et pour que ça se fasse tel quel.
Je vais te citer 5 accessoires et tu peux en prendre un parmi les 5. Tu peux choisir entre les lunettes de Clark Kent, le panier du petit chaperon rouge, les baskets de Marty McFly, le violon de Sherlock Holmes ou le chapeau de Indiana Jones. Tu prendrais quoi?
pas facile, je prendrai les chaussures de Marty McFly.
D'accord. Quelque chose que tu souhaiterais ajouter en conclusion ?
Je te remercie pour l'interview, je remercie tous ceux qui seront amenés à l'écouter, et j'espère que vous viendrez nous voir en concert. C'est là que l'identité du groupe prend le plus sa forme, et c'est notre terrain de jeu, c'est notre terrain de prédilection, donc venez nous voir en concert, écoutez nos albums, venez nous voir, venez nous parler, on mord pas, sauf si on demande. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à nous écouter, et à nous dire ce que vous en pensez.
Merci beaucoup.
Je te remercie.